Voici aujourd'hui l'économie avec Abla Junaidi. Bonjour Abla.
Bonjour.
On va parler du Soudan ce matin. Plus de 800 manifestants ont été arrêtés depuis 3 semaines. 3 semaines que dure le mouvement de protestation contre le gouvernement, mouvement qui trouve son origine dans la hausse des prix et qui a pris rapidement des allures de révolte politique. Ce qui est certain, Abla, c'est que désormais, il sera encore plus compliqué pour ce pays de sortir du marasme économique.
Oui, l'année dernière, à la même époque, les mêmes ingrédients étaient réunis. La hausse du coût de la vie et les pénuries avaient mené des foules dans la rue. Le gouvernement avait réprimé le mouvement. Il y avait eu des arrestations et des morts, mais c'était alors un mouvement centré sur la capitale avec les étudiants en pointe. Aujourd'hui, on assiste à une contestation plus large, socialement et géographiquement. Il faut dire que la situation n'a fait que se dégrader. La fin des subventions sur les produits de première nécessité, qui a multiplié le prix du pain par 3 ou augmenté le prix du carburant de 30%, n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, Arnaud.
Et pourquoi l'État soudanais ne parvient pas à redresser la situation économique?
Alors d'abord, il part de loin en 2011, quand le Soudan du Sud est devenu indépendant. Khartoum a vu 3/4 des revenus du pétrole lui échapper. Depuis, il ne touche que les royalties, les droits de passage du pétrole via ses pipelines. Là encore, la chute du prix du pétrole n'a fait que tarir ce flux. Ce sont donc des milliards en moins dans les caisses de l'État soudanais. Pour un pays très dépendant des importations, c'est moins de devises pour importer les marchandises et aussi moins de ressources pour soutenir la livre soudanaise qui n'a fait que perdre de la valeur et donc alimenter l'inflation. L'inflation qui a atteint 70% en 2018.
Est-ce que la sortie partielle de l'embargo américain en 2017 ne devait pas améliorer les choses?
Et Omar El-Bashir ne s'est pas gêné pour rappeler que son pays était toujours marqué par ces 10 années de sanctions dont les États-Unis ont mis fin en effet en partie en octobre 2017. Depuis, le gouvernement soudanais a donné des signes de bonne volonté. Il s'est éloigné de l'Iran, il collabore en matière de lutte antiterroriste, ce qui doit en principe permettre à terme de sortir le Soudan de la liste des États qui soutiennent le terrorisme. Ça reste un des gros freins aux investissements étrangers au Soudan. Une partie de la classe politique aux États-Unis se prononce d'ailleurs pour le statu quo tant que les libertés publiques sont menacées au Soudan. De fait, les investissements étrangers qui seraient essentiels pour développer davantage l'agriculture, notamment, tardent encore à se concrétiser. Il existe bien des ressources nouvelles comme l'or trouvé dans les montagnes de la mer Rouge, mais elles font l'objet de trafic et ne tombent pas dans les caisses de l'État. Elles profitent encore moins à la population. D'ailleurs, pour les manifestants, davantage que les sanctions, ce sont les choix politiques de leur président qui ruinent l'économie. Mauvaise gestion, corruption, mais aussi le fait de consacrer encore 70% du budget aux dépenses sécuritaires contre 7% seulement pour la santé et l'éducation. Il est vrai que si une solution politique définitive était trouvée au conflit persistant au Darfour et au Soudan du Sud, cela donnerait davantage de marge de manœuvre financière au gouvernement.
Et puis, Abla, il y a évidemment la dette.
La dette extérieure, elle est immense. Elle s'élève à 56 milliards de dollars, la plus grande partie contractée avant l'embargo auprès de créanciers publics occidentaux et arabes. Avant d'envisager de solliciter de l'argent frais sur les marchés, de rétablir véritablement les liens avec la communauté financière mondiale, il faudra restructurer cette immense dette plombée par les intérêts non payés depuis de très nombreuses années. En attendant, pour se financer, pour obtenir un soutien politique, le gouvernement aux abois compte sur ses alliés, des alliés parfois contradictoires, Qatar, Turquie, mais aussi Arabie Saoudite, Égypte, Émirats et même Russie. Le Qatar comme l'Égypte ont ainsi dit publiquement leur soutien au gouvernement de Khartoum.
Merci à vous, Abla Junaidi.